divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée, présentée par Fabrice Millon et Alexis Lacroix. Bonjour Fabrice.
Bonjour Alexis.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. On est très heureux de vous retrouver pour une saison nouvelle de divers aspects de la pensée contemporaine. Et nous avons, c'est vrai, une surprise à dévoiler à nos auditrices, à nos auditeurs. C'est la présence avec nous en studio du nouveau grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Alexis.
On est très heureux de vous accueillir tous les deux à France Culture en ce dimanche matin. Vous avez été élu très récemment, le 24 août dernier, lors du convent de Lille qui s'est réuni. Vous avez prêté serment dès le lendemain, le 25 août. Alors d'abord, je vais vous dire vos premières impressions de cette nouvelle, de ce nouveau mandat à la tête du Grand Orient de France, de cette grande maîtrise qui commence pour vous.
Mes premières impressions, c'est, ce sont des impressions de grande responsabilité par rapport aux enjeux contemporains, aux enjeux de société, et puis de grande responsabilité par rapport à la gestion de la première obédience française, libérale, dogmatique.
On peut rappeler près de 53 000 hein, membres du Grand Orient de France, donc ça en fait effectivement la première obédience.
On peut même dire 54 000.
D'accord.
54 000, 1400 loges, réparties en France et hors hexagone, évidemment, avec des loges d'études et de recherche, des loges de mission, des commissions nationales. Bref, une communauté de travailleurs et de travailleuses qui se sont mis au travail depuis septembre, puisque le convent, ça marque également le début de l'année maçonnique.
Absolument. Alors Guillaume Trichard, donc ça fait un petit peu plus d'un mois que vous avez pris vos fonctions à la tête du Grand Orient de France, la plus grande obédience française. Lors d'une de vos premières interventions médiatiques, c'était je crois pour l'AFP, vous avez déroulé, disons, une partie de votre projet pour le Grand Orient, et vous avez insister sur le fait que, selon vous, l'obédience devait jouer le rôle de sentinelle. Alors, la question est très simple. Sentinelle de quoi? Sur quoi veillez-vous? Que surveillez-vous? Quel est votre rôle, en quelque sorte, de vigie?
Alors justement, jusqu'à présent, on a toujours dit que les francs-maçons, notamment du Grand Orient de France, étaient quelque part la vigie de la République. Mmh. Je souhaite que le Grand Orient de France soit non seulement une vigie, mais soit une sentinelle.
Vous verriez quoi comme différence justement entre le qualificatif de vigie qui était très employé sous la Troisième République par exemple, hein, et le qualificatif de sentinelle, c'est pour des périodes plus troublées, plus difficiles, plus dangereuses?
La vigie surveille, pour être simple. La sentinelle, non seulement elle surveille, mais elle défend. Mmh. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de défendre les principes républicains. Alors évidemment, on connaît liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais je veux simplement repréciser que pour nous, la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Or, sur ces quatre qualificatifs de la République, malheureusement, le constat est assez amer, et donc il nous faut à la fois réparer la République, la réparer avec nos idées. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une organisation syndicale, nous ne sommes pas une association de lobbying. Nous sommes des penseurs. Nous sommes, je dirais même, des passeurs de lumière, héritiers du siècle des Lumières. Et donc notre rôle, c'est ce que nous faisons déjà depuis près de 300 ans, nous réfléchissons dans nos loges à des propositions, à des solutions aux grands maux de la société. Et donc, c'est ça, réparer la République. Et puis, la défendre, c'est la défendre contre ceux qui souhaitent la mettre à terre.
Alors, c'est qui, justement, Guillaume Trichard, ceux qui, aujourd'hui, fouleraient aux pieds les principes républicains et souhaiteraient même mettre à terre le régime républicain, qui est un état d'esprit, mais qui est aussi d'abord un régime?
Évidemment, pour moi, c'est avant toute chose l'extrême droite, qui est aux portes du pouvoir, parce que, on le voit à longueur de sondage, le parti des héritiers de la famille Le Pen, évidemment, sont aux portes du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est assez malheureux de constater qu'un parti d'extrême droite, dans une sorte de mitose, a donné naissance à un autre parti d'extrême droite et que ces deux partis ne se cannibalisent pas, mais s'additionnent. Donc il y a un danger éminent pour la République et donc il nous appartient de la défendre. Mais avant de la défendre, je crois qu'il nous faut la réparer. C'est-à-dire que les francs-maçons sont des optimistes et sont des travailleurs. Mmh. Et donc, ils ne sont pas résignés à l'inaccessible accession de la présidence de la République par l'extrême droite.
Voilà, cet horizon de 2027 qui est commenté par beaucoup de sondeurs, de commentateurs politiques, etc. On peut quand même arrêter cette catastrophe que serait l'accession du Rassemblement National à des responsabilités d'État, selon vous, si l'on répare la République. Est-ce que ça veut dire aussi que les francs-maçons, les francs-maçonnes ont une parole à porter dans la France, dans sa diversité, dans les territoires, et à faire vivre très concrètement, hein, dans le tissu concret de leurs existences individuelles?
Vous posez très bien la question parce que, cher Alexis, je crois que il y a évidemment l'obédience, le Grand Orient de France, mais sa force réside dans l'action des francs-maçons et des francs-maçonnes. Pour le dire simplement, ce sont aux francs-maçons et aux francs-maçonnes d'agir au quotidien, en dehors du temple, comme on aime à le dire dans nos loges, et d'aller s'investir dans des associations, certains dans des partis politiques, d'autres dans des syndicats. Mais ce qui est très important, ce qui est très très important, c'est qu'ils puissent partager leurs idées et leurs convictions. C'est ça qui est fondamental. Et je crois qu'ils ont entre leurs mains cette responsabilité.
Alors, le Grand Orient de France, c'est le cours le plus intérieur de son histoire. Il a fêté très récemment un anniversaire signifiant dans son histoire. Il a été, on va dire au cours de la Troisième République, mais même plus largement, le défenseur, la vigie, si l'on veut, hein, pour reprendre vos termes, Guillaume Trichard, de la laïcité. Aujourd'hui, celle-ci est assaillie de toutes parts, hein, par des revendications d'ordre communautaire ou identitaire. Vous avez, je crois, plutôt plaidé en faveur de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Alors maintenant, est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire faire adopter, comme dans les Outre-mer, l'uniforme par les enfants des écoles et des collèges?
Alors, il y a effectivement des pays, en tout cas des régions ou des départements hors hexagone dans lesquels ces vêtements sont portés. Moi, je crois que les enfants ne sont pas des cobayes.
Ça ne les traumatise pas non plus, hein, les enfants martiniquais ou réunionnais.
Non, mais ça ne les traumatise pas. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille, parce qu'on aurait un problème avec certains obscurantistes religieux, imposer une façon de se vêtir à nos enfants. Donc, et je rappelle d'ailleurs que le port de la blouse blanche qui a été introduite dans nos écoles à une époque, c'était à l'époque des encriers, et parce que les enfants se faisaient des taches.
Vous voyez que c'était la seule raison, hein,
c'était la seule raison
d'empêcher les salissures sur les vêtements.
Exactement. Et ouais. lorsque ça a disparu, lorsqu'on est passé au stylo à billes, eh bien, dans les années 60, les blouses blanches ont notamment disparu. Mais plus sérieusement, je crois que l'école, c'est aussi l'expression des particularismes, des identités des enfants qui s'habillent avec des couleurs gaies, voilà, je crois que ces identités qui sont plurielles et qui n'ont rien à voir avec l'appartenance à une religion ou à un parti politique quelconque, eh bien, il faut les cultiver.
Alors, c'est vrai que vous le savez, Guillaume Trichard, vous êtes aujourd'hui à la tête de la première obédience française, vous êtes nouveau grand maître du Grand Orient de France. Il y a aussi des arguments en faveur de l'uniforme dans les établissements scolaires qui se déroulent sur un plan plus social. Des gens qui disent, mais comme ça, on empêche la compétition des marques de Nike, etc., toutes les marques que portent les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, et on égalise en quelque sorte les conditions sociales. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le débat est ouvert sur ce sujet, mais encore une fois, il ne faut pas utiliser des arguments détournés parce que, en fait, en visée, on a quelques ennemis. Je dis bien des ennemis qui sont les intégristes religieux, notamment. Donc ça ne sert à rien d'aller trouver des arguments marketing, sociaux, sociétaux pour viser en fait à éviter ce que l'on craint le plus, c'est-à-dire l'entrisme religieux dans nos écoles publiques et laïque.
Alors on va venir à un des moments forts de l'année 2024, placé sous le signe de la résistance. Vous voulez que le Grand Orient de France se positionne comme une vigie, une sentinelle, mais aussi comme un acteur de la résistance. Vous allez nous dire, Guillaume Trichard, dans un instant, ce que vous entendez par résistance. Mais un mot quand même d'une crise internationale qui a jailli à nouveau sous les feux de l'actualité il y a maintenant un peu plus de 10 jours. Au Nagorno-Karabakh, donc l'opération menée par l'Azerbaïdjan du président Aliyev pour récupérer récupérer cette région sécessionniste. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la France doit, peut faire? Et qu'est-ce que le Grand Orient peut faire dans ce contexte nouveau?
Alors, avant tout, cette situation nous préoccupe énormément. Mm-hmm. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que, évidemment, une actualité en chasse une autre. Mais enfin, ça fait plusieurs mois que cette région, le Haut-Karabakh, que des hommes, des femmes, des enfants sont en situation de blocus, sans couloir humanitaire, sans possibilité de pouvoir voyager, et avec des difficultés notamment d'approvisionnement alimentaire. Donc la réalité des choses, c'est que ça fait longtemps que cette situation dure et perdure. Donc maintenant, il appartient à la communauté internationale de se soucier sérieusement, pas seulement du sort du Haut-Karabakh, mais de l'Arménie elle-même. Et
oui,
le président de la République
l'a dit, l'intégrité de l'Arménie est en cause à terme, hein, donc il faut que la France se mobilise. Le Grand Orient va y prendre sa part?
Nous prendrons notre part à notre mesure, c'est-à-dire pour venir en aide aux Arméniens, nous déclencherons avec la Fondation du Grand Orient de France certainement un appel à solidarité, et puis, pour notamment nous occuper des réfugiés, et puis je crois que le Grand Orient de France aura son rôle à jouer avec les obédiences amies européennes. Vous savez que nous sommes en lien avec différentes obédiences et que cette situation, évidemment, est abordée. Et moi, je l'aborderai avec les obédiences maçonniques turques, puisque j'irai en Turquie à la fin du mois d'octobre pour le centenaire de la République laïque de Turquie.
De Kemal Atatürk, absolument. Alors Guillaume Trichard, encore une minute ensemble. Nous sommes ce matin sur divers aspects de la pensée contemporaine. Vous êtes le nouveau grand maître du Grand Orient de France. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir avec nous à France Culture. La résistance, ça va être un des fils rouges de votre action pendant l'année qui vient. À quoi, à qui devons-nous aujourd'hui, francs-maçons, francs-maçonnes, résister?
D'abord, résister, effectivement, est le fil rouge que j'ai défini pour notamment les utopiales maçonniques qui auront lieu au printemps prochain. Et partout en France, des loges vont ouvrir leur temps, vont organiser des événements autour de ce thème, résister. Et puis, la résistance dans cette année 2024, donc commémoration de la libération en France, c'est aussi finalement un devoir de mémoire, transmis à nos enfants. Parce que en cette année particulière d'élections européennes, je crois qu'il faut qu'on rappelle où nous mènent toutes ces idéologies de haine jusqu'au pire. Et très clairement, c'est dans cette optique-là que nous allons également organiser un grand voyage mémoriel à Auschwitz, parce que je crois que les francs-maçons et les francs-maçonnes ont un message universel à adresser à l'Europe tout entière et à la France en particulier.
Donc résister aux vieux démons du nationalisme notamment. Le nationalisme, c'est la guerre, disait François Mitterrand. C'est plus vrai que jamais.
C'est résister aux démons intérieurs des hommes et des femmes. Le repli sur soi, la haine de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du migrant. Nous sommes une grande nation d'accueil et de protection des hommes et des femmes à travers le monde. Il faut que nous le restions.
Merci beaucoup Guillaume Trichard pour cet entretien passionnant.
Merci très cher Alexis.
Très bonne journée à vous. Alors je me tourne vers Fabrice Millon. Fabrice, vous venez d'entendre le grand maître du Grand Orient de France. On a évoqué, bien sûr, les séparatismes identitaires. Au cœur des actualités du Grand Orient pendant le mois qui commence, il y aura la commémoration de ce triste, de cet atroce assassinat qui a frappé ce professeur des Yvelines, qui s'appelait Samuel Paty, dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Le Grand Orient de France se mobilise à cette occasion.
Le Grand Orient de France se mobilise, évidemment. Depuis 3 ans maintenant, le mois d'octobre est un mois singulier en France. Le 16 octobre 2020, souvenons-nous, Samuel Paty était assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Et évidemment, à cette occasion, le Grand Orient se rendra, une partie des membres du Grand Orient se rendront naturellement en fait au square Samuel Paty. Et très certainement, en fait, nous organiserons au sein même de l'hôtel Cadet des tables rondes et peut-être une conférence publique à cet effet.
C'est ça. Vous pouvez pas nous dévoiler pour l'instant le nom de participants, mais on imagine qu'il y aura le gratin de la vie intellectuelle française, peut-être des hommes politiques, des ministres qui peut-être
oui,
ont l'occasion
aussi les
de venir.
Alors voilà. Nous aurons certainement des ministres et des journalistes, mais aussi des francs-maçons eux-mêmes qui ont beaucoup à dire sur leur engagement en fait autour des valeurs défendues par Samuel Paty.
Alors, dernière question, merci beaucoup cher Fabrice. Dernière question, Guillaume Trichard, on est avec vous. Vous êtes le nouveau grand maître du Grand Orient de France. Pour vous, à titre individuel, en votre âme et conscience, que représente justement la commémoration des 3 ans de cet assassinat horrible qui a terrifié la France, mais même le monde?
décapiter un enseignant, c'est-à-dire un homme ou une femme qui transmet le savoir, qui transmet cette idée de liberté, parce que finalement, Samuel Paty enseignait quoi ? Il enseignait la liberté d'expression. Eh bien, décapiter un homme qui enseigne la liberté, c'est ça le symbole de la République décapitée. Et je crois que le fait d'honorer Samuel Paty, à la fois à Paris, mais partout en France, ça sera le plus bel hommage que l'on peut rendre à ce professeur. Et au-delà, ça sera un acte de résistance par rapport à tous les obscurantismes.
Et à toutes les pressions qui s'exercent aujourd'hui sur le sanctuaire qu'est l'École de la République. Merci beaucoup Guillaume Trichard, merci beaucoup Fabrice Millon. On se retrouve d'ailleurs le mois prochain au micro de divers aspects de la pensée contemporaine. C'était divers aspects de la pensée contemporaine, à la technique Noé Chabanne, à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la coordination éditoriale Claire Poinsignon. Bonne semaine à tous.